Bonjour et bienvenue à Regards Croisés avec Fulgence Blas
et Arlette Farah.
Oui, c'est la première émission de la semaine.
Oui.
Et nous allons la démarrer, bien sûr, avec
on
un invité.
On commence fort.
Comment vas-tu, Arlette ?
Je vais bien, je vais bien. Je suis contente de recevoir. Enfin, je suis contente qu'on reçoive Denis Martin Chabot pour son livre sur la vie de Laurent McCutcheon.
Oui.
Et la révolution gay et lesbienne au Québec.
On avait parlé ici même de son lancement, d'ailleurs.
Parce que c'est quand même quelqu'un, Laurent McCutcheon, qui a reçu le prix Droits et Libertés décerné par la Commission des droits et de la personne et des droits de la jeunesse.
Ouais.
Il a fait beaucoup, beaucoup pour cette communauté.
Génial.
Donc on va en parler dans un instant.
Dans un instant.
Et toi, tu vas nous parler de quoi ?
Moi, je vais aborder le Festival du Bonheur de Montréal, session 2002, bien sûr.
Oui.
C'est la deuxième édition parce que ça a commencé l'année passée. Le Festival du Bonheur Montréal, la ville heureuse, la plus heureuse. Donc, les détails un peu plus tard.
Je ne sais pas si c'est la plus heureuse aujourd'hui, mais en tout cas, on s'y essaye.
Et puis, bon, s'il y a du temps, si le temps nous le permet, la 16e édition du Festival international du film Black de Montréal, qui sera en ligne du 23 septembre au 4 octobre.
Entendu.
Allez, là, on commence
la
musique, non ?
On part avec Charles Aznavour, qui nous chante cette merveilleuse chanson, comme ils disent.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui, pour épater leur tablé, marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je
pense à mes amours sans joie, si dérisoire, à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger, et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.
Denis Martin Chabot, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Bonjour, oui. Denis Martin.
Oui. Alors, juste pour vous dire, je suis à la maison, puis je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais mon petit chien jappe régulièrement, c'est ce que vous allez entendre, parce qu'il vient de le faire, là.
Ah d'accord, bon, ben, c'est peut-être parce qu'il a aimé la chanson?
Probablement.
Il y a ça aussi. Alors, Denis Martin, bien, on te reçoit pour ton livre écrit sur Laurent McCutcheon et la révolution gay et lesbienne du Québec.
Oui.
D'abord, ben, j'ai envie de te dire... Bravo, le livre il se lit très facilement, c'est très agréable. Et pour, c'est un monsieur qui, personnellement, pour l'avoir déjà rencontré et déjà reçu une fois, j'ai appris encore plein de choses en plus sur lui.
Donc, ouais, c'est un homme.
Bien écrit et très intéressant.
Merci.
Alors, dans un premier temps, bah, ma première question va être genre ouverte, parce que je voudrais que tu nous racontes comment est né ce livre et ta rencontre avec Laurent.
Ben, Laurent, c'est quelqu'un que je connais. Que je connaissais d'abord comme journaliste, ayant moi-même travaillé à Radio-Canada pendant pratiquement 33 ans, ben, j'ai côtoyé Laurent McCutcheon comme personne que j'interviewais. Et je trouvais cet homme impressionnant. C'est sûr que comme journaliste, ma job, c'est de poser des questions et tout ça, mais quand même, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Je me disais, ben quand même, chapeau, il se lève, il parle, il met son poing sur la table, il combat. Donc j'avais cette estime pour lui et par la suite ben je l'ai rencontré avec mon départ à la retraite, avec toutes mes autres implications, j'ai rencontré Laurent et puis je venais de terminer ou j'étais en train de terminer ma biographie sur Madame Roy-Laroche et j'étais à un événement où Laurent se trouvait. J'avais vaguement entendu parler que Laurent avait été malade, mais je me dis, bon, ben c'est sûr qu'à l'âge qu'il a, ça peut arriver d'être malade un peu, mais je ne savais pas que c'était aussi sérieux que ça. Alors, tout ça pour dire que je parle à Laurent, et je lui dis, écoute, Laurent, ce serait le fun d'écrire ton histoire, mais il me semble que ça serait intéressant pour les plus jeunes de savoir par où ça a passé, toutes ces démarches pour obtenir les droits pour les communautés de la diversité sexuelle et d'identité de genre. Puis il me dit, ben écoute, mon vieux, si tu veux faire ça, attelle-toi, vas-y vite, attache ta tuque parce que je suis très malade et je ne sais pas combien de temps j'en ai encore à vivre. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il avait un cancer du poumon. Et donc, ça a commencé en 2018. Je ne connaissais pas vraiment Laurent McCutcheon, sauf comme ça, pour l'avoir rencontré. Mais à passer du temps à jaser avec quelqu'un comme ça, c'est extraordinaire qu'on apprend des choses. On se rend compte que la vie, ce qui fait que quelqu'un devient un tel activiste, pourquoi? Puis on voit que sa vie l'a préparé à ça. C'est toujours intéressant de voir que la vie de quelqu'un va le mener à faire quelque chose comme ça. Et c'est ça. Alors, Laurent, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec lui en entrevue. J'ai bien rigolé parce qu'il est très drôle.
Il peut aussi être très drôle.
Il était très drôle, oui.
Oui. Ben, quand il est arrivé à Gay Écoute, ce qu'on lit aussi dans le livre, c'est une des premières campagnes, si ce n'est la première qu'il a faite, c'est La vie en rose, pas toujours rose.
Oui.
De lire ça et puis après de parler du défilé.
Oui.
Qu'il a...
Ben, voilà. En fait, ce qui a motivé Laurent, quand on apprend, moi j'ai découvert sa vie, je suis toujours intéressé à savoir t'es venu au monde ou comment t'as vécu ta jeunesse. Et là, tout à coup, j'apprends qu'il fait une grande dépression nerveuse à son adolescence. Et Puis finalement, à ce moment-là, on n'avait pas d'antidépresseurs. On mettait les gens en repos à l'hôpital et puis on espérait qu'ils ne s'enlèvent pas la vie. Il n'y avait pas tant de services comme on a présentement. Et cette dépression, c'était pourquoi? Mais parce que Laurent, il était attiré par les hommes dans une petite ville qui s'appelle Telford Mines. C'était pas le genre de truc qu'on voudrait avoir parce que c'est pas simple, c'est pas facile à vivre, même si ça n'était pas très simple non plus à Montréal, faut le dire, à l'époque. Et c'est intéressant de voir que c'est ce qui l'a mené éventuellement à militer pour Gay-Écoute, qui fait de l'écoute pour les jeunes qui étaient en crise, ou les hommes ou les femmes qui étaient en crise à cause de leur orientation sexuelle.
C'est ça.
Ça vient un peu expliquer qu'est-ce qui a amené Laurent là. Pourquoi il s'est tant intéressé au suicide chez les jeunes? Parce que, ouais, il l'a peut-être pas fait, mais ça lui est passé par la tête, hein, comme bien d'autres personnes, quand on est bien malheureux. Alors, c'est toujours intéressant de découvrir la motivation d'un homme qui s'est caché, qui a vécu sa vie en cachette, puis un jour il dit « j'en ai assez, je ne veux plus vivre comme ça », et tout à coup, c'est l'explosion. Et là, il devient ce militant important, parce que Laurent étant un haut fonctionnaire, il était connu de tout le monde, alors il a pu ouvrir des portes pour les communautés, faire avancer des dossiers. C'était pas le seul militant à l'époque, il y en avait d'autres, mais disons que dans son œuvre à lui, il a ouvert des portes dans les milieux politiques.
Alors, il y a des choses qui sont venues me toucher plus que d'autres. C'est aussi au moment d'avoir créé le défilé.
Oui.
Et puis, étant donné que dans le monde sportif, c'était vraiment extrêmement secret,
oui,
de pas se découvrir et surtout de ne pas parler de son homosexualité quand c'était le cas, de faire défiler un véhicule vide pour signaler leur absence. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose, oui, que j'ai trouvé extrêmement fort.
Laurent avait beaucoup à la provocation. Je veux dire qu'il n'a pas créé le défilé, mais il a fait partie des gens qui l'ont organisé. Comme je dis toujours, Laurent n'était pas le seul activiste ou le seul militant, mais disons qu'il était un incontournable parce qu'il avait l'oreille du gouvernement, il savait à qui parler. Et puis effectivement, quand il faisait des coups d'éclat, ça n'était pas des petits. Et le monde sportif, c'est encore et toujours le dernier placard. Le vestiaire,
oui,
je crois qu'il n'y a pas beaucoup de grands sportifs, du moins pas la Ligue nationale, mais on commence à en voir peut-être dans les équipes de football. C'est encore un problème. C'est encore un milieu qui est pas très ouvert. Et les sportifs craignent de sortir du placard et de s'exposer. Ils le font à leur retraite, mais le faire présentement, on est encore dans les derniers retranchements, je pense, de cette homophobie.
Oui, mais quand même, Denis Martin, parce que le dernier défilé auquel j'ai assisté, c'était quand même... Il y en avait du monde, des endroits où on ne devrait pas le dire, du monde sportif ou même de la police.
On commence
ou même
à en avoir
choses.
De plus en plus, oui.
Alors, en tout cas, bon, on en reparlera après aussi, mais on va revenir sur sa vie. Mais il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup touchée dans le livre, plutôt vers la fin du livre, à un moment donné où on parle du mariage gay et voir à quel point ça a été condamné par l'Église catholique.
Oui.
Et je voudrais juste lire ce que tu as écrit, si tu permets, que Laurent avait dit... Je viens plaider la cause de celles et ceux qui, comme moi, ne correspondent pas au modèle préconisé par ton Église. Se peut-il, Jésus, que les hauts dirigeants de ton Église se soient écartés de ton enseignement et que la parole des hommes se soit substituée à la tienne? Écoute, quand j'ai lu ça, j'en avais les poils tout droit.
Oui, ça, si je me rappelle bien, c'était l'homélie qu'il avait fait, oui, à l'église Saint-Paul-Apôtre à Montréal.
C'est ça.
Laurent ne se définit pas comme un homme religieux, du moins ça n'a pas été je pense qu'on le voit aussi dans le livre, mais il avait un énorme respect pour l'institution. Malheureusement, il était pas toujours content de ce que l'institution faisait, en fait, au niveau des droits et des minorités, évidemment, minorités sexuelles et d'identité de genre. L'Église catholique n'est pas une championne, mais on n'est pas la seule non plus. Beaucoup d'églises sont comme elle. On va forcément condamner celle-là, mais disons que c'est celle qu'on connaît la plus,
c'est ça,
au Québec.
C'est celle dont tu parles dans ton livre, donc voilà. on en parle.
On en parle. Et puis, il n'a pas été très tendre, hein, vis-à-vis les évêques et tout ça, mais vis-à-vis les croyants, il les respectait. Puis j'ai beaucoup aimé ce texte-là. En fait, je l'avais retrouvé en faisant de la recherche et je me suis dit, mais quel beau texte. Quel beau texte qui dit finalement quelque chose d'important sur l'humanité. On a oublié un peu c'était quoi l'amour. Hein?
J'ai trouvé ça très, très émouvant à lire aussi. Ouais. Et puis aussi, quand on arrive à sa fin, mais bon, on en reparlera aussi. On va se faire juste une petite pause musicale dans l'instant, Denis Martin.
Pas de problème.
Et puis on revient avec toi tout de suite après ça, ok?
D'accord.
Merci. Denis Martin.
Oui.
Donc, je sais qu'on ne peut pas tout dire ce qu'il y a dans ce livre, donc je le répète. Denis Martin Chabot a écrit Laurent McCutcheon et la révolution gay et les lesbiennes du Québec. Préface de Jeannette Bertrand, qui n'est pas rien.
Oui.
Qui se trouve aux éditions de l'Homme, je le précise parce que j'en avais pas parlé tout à l'heure. Je voudrais juste. Fulgence va avoir une question pour toi, mais avant, je voudrais juste qu'on parle d'un moment qui est extrêmement émouvant, c'est-à-dire le jour de son départ, le jour où il a décidé de partir.
D'accord.
Voilà. Tu peux nous en parler un petit peu plus.
Oh, on est en onde présentement.
Oui.
Oui, ah, je suis désolée, j'avais l'impression que nous étions hors antenne. Alors,
non, pas du tout, Denis Martin.
Alors, oui, Laurent McCutcheon aurait été un militant toute sa vie. Il avait fait le choix de mourir dans la dignité. Il avait fait le choix de choisir le moment, lorsqu'il en aurait assez de ses souffrances, de partir. Il était, en fait, son appui à l'aide médicale à mourir a été de tout temps. C'était pas juste à la fin de sa vie. Et il aurait pu s'éteindre et laisser les choses aller. Non, il a publiquement annoncé qu'il s'était prévalu de l'aide médicale à mourir. Et ce que je trouve touchant, c'est que j'ai le conjoint de Laurent qui me raconte les derniers moments de Laurent. C'est très beau. C'est très beau. C'est rempli d'amour. Puis, vous savez pourquoi je pense que ça méritait d'être là? C'est que tout le long du livre, ce que Laurent voulait dire, c'est que deux hommes qui s'aiment, c'est de l'amour. C'est rien de différent qu'un homme ou une femme ou deux femmes ou quoi que ce soit. Et que cet amour-là avait le droit d'exister, avait le droit d'être reconnu. Et je voulais montrer c'était quoi cet amour-là. Puis je pense que on le voit à la fin.
Oui.
C'est très touchant, oui, je sais. C'était très dur hein, pour le conjoint de Laurent de me raconter tout ça. Mais bon, ça fait partie de mon travail.
En tout cas, c'est très bien écrit. Merci pour
merci.
Ça.
Merci, merci.
Fulgence, je te laisse la question.
Oui. comment tu t'es senti d'ailleurs? Donc, la question que je voulais poser, c'est que tu as parlé d'abord de ta biographie, de ton ta biographie à toi.
Moi, non, je n'ai pas fait de biographie sur moi. J'avais fait une biographie sur la mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche.
Oui. Oui. Donc, ça, tu as fini. Ce livre est déjà sorti?
Oui.
Oui, il est sorti en 2018.
Ouais. Quelle a été ta réaction quand tu as appris la mort, le départ de Laurent?
En fait, je m'y attendais. J'avais eu ma dernière entrevue avec Laurent 4 jours avant son décès. Et il n'allait vraiment pas bien. Mais on a beau dire qu'on était préparé, on ne se prépare jamais à la mort de quelqu'un. Surtout quand quelqu'un a été aussi significatif dans sa vie. Moi, Laurent, il a été significatif les 2 dernières années de sa vie, j'étais constamment avec lui, je passais tout mon temps libre à faire mes recherches, à lire sur Laurent McCutcheon, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, et tout à coup, de ne plus pouvoir prendre le téléphone, puis d'appeler ou d'envoyer un courriel, Laurent, peux-tu vérifier ça, je suis pas certain que j'ai compris, et là, il n'était pas là pour faire ce travail-là, bon, son conjoint l'a fait, mais quand même, oui, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, oui.
Mais bravo, je n'ai pas encore lu. J'espère que je vais le lire. Arlette, elle m'a dit quand elle aura fini, elle va me le passer aussi. Mais j'aimerais bien, moi, l'avoir dans ma bibliothèque. Je vais l'acheter, ça, c'est clair. Et puis, le lire et l'avoir dans ma bibliothèque, ce genre de bouquins, il faut les conserver aussi.
C'est ça.
Ça sert de mémoire. Et puis, il ne suffit pas de les lire et puis les...
Parce que c'est aussi une belle histoire. Il y a aussi une belle histoire d'amour de Laurent et de son compagnon. J'ai trouvé que c'était plein de pudeur, leur rencontre. Et en même temps, c'est en filigrane tout le long parce qu'ils sont l'un avec l'autre, l'un et de l'autre pour passer à travers la vie. Je trouve ça très, très beau aussi.
Bien, merci. C'est le livre... À mon avis, on est toujours aussi bon que son dernier livre. Alors, à mon avis, c'est probablement mon meilleur. Je l'aime beaucoup.
Vas-y.
On verra les prochains, ce que je vais dire.
Denis Martin?
Oui.
Mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a créé cette confiance? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est confié à toi comme ça?
Je sais pas. Je voudrais pas me vanter, mais je pense que je l'ai approché tout simplement en lui disant, je trouve que l'histoire de Laurent McKechnie mérite d'être connue. Elle mérite qu'on en parle. On a un devoir de mémoire vis-à-vis les gens qui ont bâti certaines choses. Je l'amenais un peu comme ça, puis ça me le tentait. Qu'est-ce qui en passait? Et puis, je sais pas, la confiance, on a soupé ensemble. On avait lunché ensemble, lui, son conjoint et moi, chez lui. Et à la fin de la rencontre, c'était définitif. Il voulait que je sois son biographe. Ouais. Wow.
En même temps, ça traduit tellement l'histoire du Québec à travers tout ça, tout ce qu'il a vécu. Il n'a pas été non plus même dans le parti de Gay Écoute. En tout cas, dans la communauté gay, tout le monde n'a pas toujours été avec lui tout le temps.
Non.
Il y avait des fois des choses qu'il pouvait dire ou faire qui contrariaient, mais il a suivi son cœur, en tout cas ce qu'il imaginait.
Ou bien qu'il ne plaisait pas à tout le monde dans la communauté.
Voilà, c'est ça.
Ouais, mais je ne voulais pas faire non plus un portrait complaisant de Laurent McKechnie. Ça n'aurait pas rendu service à la cause, ça n'aurait pas été très crédible non plus. Laurent ne faisait pas l'unanimité, il le reconnaissait lui-même. Et je n'ai eu jamais, il ne m'a jamais censuré sur ce que je pouvais écrire, ne pouvais pas écrire. Alors, c'était très agréable de travailler avec lui là-dessus. Là. C'est vraiment quelqu'un qui avait l'esprit ouvert. Et,
Il trouvait que la critique faisait avancer, donc c'est ce qui s'est passé avec lui. Mais je n'avais pas eu conscience, moi personnellement, je n'avais pas eu conscience au moment du mariage gay qu'il y avait eu autant de condamnations de l'Église catholique. J'ai été impressionnée de voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit et les horreurs qui ont été dites.
J'enchaîne avec une question tout de suite. Est-ce que toi, tu vas encore à l'Église?
Non. Non, moi, je ne crois pas.
C'était farantais ce que je voulais faire. Là.
Mais là, écoute, moi, ça ne me dérange pas de le dire, mais oui, je suis athée, j'ai apostasié. Je ne vois pas l'intérêt dans ma vie d'avoir une religion. Cela dit, je ne suis pas intolérant. Ceux qui croient, je suis parfaitement d'accord avec eux, ils ont le droit. Je pense que la religion, je ne peux pas demander aux gens de m'accepter moi si je n'accepte pas qui ils sont. C'est un peu, en autant que tout le monde respecte la liberté de tout un chacun. Hein. Ma liberté, moi, se termine là où celle de l'autre commence et vice versa. Mais bon.
Mais comme il l'a fait, en tout cas, c'était toujours dans le calme et le respect de l'autre quand il répondait. Il était contre la colère et l'agressivité qui pouvaient naître parce qu'il y a des choses qui, quand même, ont été dites, même par des animateurs aussi. Il y a des choses qui étaient excessives.
Il y a des choses horribles qui se sont dites. Hein. Puis j'avais juste à faire la corrélation avec ce qui se passe présentement, puis toutes les disputes au sujet des masques et des non-masques et tout ça, ça existait aussi autour du mariage gay. Les choses qui se disaient, c'était ahurissant. C'était
fort, très, très fort.
C'est pas ici seulement, en France aussi, on a vu comment les gens sont descendus dans la rue.
Hein. Ah oui, mais moi je dis même pas descendus dans la rue, ils sont descendus bas.
Mais c'est ici, ce qui s'est dit, les mots qui ont été sortis, qui étaient vraiment des... C'était vraiment une insulte à l'être humain. Quoi.
Des mots qui laissent des traces, qui blessent.
Donc,
des horreurs, oui. Mais je pense que Laurent, c'était pas quelqu'un qui confrontait de cette façon-là. Mais je peux vous dire qu'il avait tout un caractère, les gens me l'ont dit. Alors, derrière des portes closes, il savait mettre son poing sur la table. Ça, vous pourrez le lire dans le livre, j'en parle. Et j'aime bien faire découvrir ces choses-là aux gens parce que tout le monde me parlait, ah oui, c'est un homme posé, je suis certain, oui. Oui, mais tu sais pas ce qui se passait derrière des portes closes, toi.
Mais c'est parce que aussi, il a décidé dans le milieu artistique, alors vous avez qu'à lire le livre, je vous donne pas de nom spécialement, mais il y avait des gens qui n'osaient pas trop être en porte-parole ou être représentatifs de la communauté gay, et il a su trouver les mots d'un ton décisif, certes, mais calme quand même. Il a su trouver les mots pour amener ces personnes-là à représenter la communauté, puis à en parler, puis à faire aussi des efforts pour que tout le monde sorte du placard. Donc une bénédiction, puis ça sera peut-être, ça va l'être aussi, qu'on n'a pas parlé non plus d'émergence, mais c'est toutes les choses que vous allez lire dans ce livre.
Et de la journée mondiale de lutte contre la transphobie qu'il a créée d'ailleurs.
Ouais. Voilà, mais qui était d'abord l'homophobie et qui est devenue après, mm-hmm. voilà. Donc, merci beaucoup pour tout ça.
Mais c'est moi qui vous remercie tous les deux.
Ce que je voulais dire, c'est que dans ce livre-là, on apprend plein de choses, et puis ma dernière petite... non pas une question mais une anecdote, je pense que ça va servir à des jeunes gens qui ne savent pas ce qui s'est passé avant et qui vont comprendre, puisque aujourd'hui il y a encore des choses qui se passent malheureusement, c'est pas encore rentré dans les mœurs de tout le monde, donc qui vont pouvoir grâce à ce livre se sentir mieux.
Ouais, j'espère que ce livre va parler aussi aux plus jeunes. J'essaie de l'écrire d'une façon la plus ouverte possible et la plus simple possible à lire. C'est jamais parfait, mais j'essaie vraiment que... On m'a dit que ce livre se lit très rapidement. Je suis content d'entendre ça. Oui,
ouais, très. Vraiment très facilement.
Ça va, leur apprendre aussi.
Donc,
qu'il y a des gens qui ont lutté pour eux, qui ont fait le chemin avant qu'ils ne puissent vivre actuellement des sexualités comme leur semble.
Tout à fait.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Denis Martin.
Je te remercie, Arlène. Je te remercie, Fulgence. Et puis,
à bientôt.
Oui. À bientôt, Denis Martin.
Bye. Bon, on se quitte en musique. Donc, qu'est-ce qu'on met comme musique? Bonne question.
Non, là, on va en pause publicitaire. Oui, on va en pause publicitaire. Restez avec nous.
Mais oui, c'est d'abord la pause. Moi, je veux toujours de la musique, mais je sais qu'il y a une pause.
C'est de la musique aussi, la pause publicitaire.
Oui, aussi. Mais un petit peu, oui. On parle, on revient en musique.
On revient en musique, et
après,
on continue avec d'autres sujets.
On parle
le festival
du sourire de Montréal.
Le sourire de Montréal. Montréal la plus heureuse. Ouais.
OK.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Et maintenant, je peux placer ma chanson que je voyais tout à l'heure. Donc, on va partir en musique avec Clara Luciani qui nous chante cette chanson.
Les beaux jours, les beaux jours. Cette chanson n'évoquera pas les beaux jours, les beaux jours, les beaux jours, les beaux jours. J'y ai renoncé, j'y ai renoncé.
Parler un peu de bonheur, pourquoi pas, oui,
oui.
Le festival du bonheur de Montréal qui
du
est de
bonheur,
retour.
Du bonheur.
Et il faut que ça se sente dans nos voix aussi. Hein. Un petit
sourire. On le refait.
Ah, voilà.
Du bonheur.
C'est un clin d'œil à notre amie Roussana, bien sûr, qui est derrière tout ça. Montréal, la plus heureuse, qui présente le festival du bonheur de Montréal 2020. C'est la deuxième édition, ça a commencé en 2019. On avait eu la chance de la recevoir ici sur les ondes de Canal M pour parler de cet événement que j'adore beaucoup. Hein. Elle va pas. Vraiment, festival de bonheur. Quand je lui ai demandé, mais c'est quoi ça, tout ça? Elle a même écrit un livre. Hein. J'ai une copie de ce bouquin chez moi, là, voilà, que je lis de temps en temps.
Elle a fait des enregistrements avec
des personnes. C'est ça, elle est conférencière en plus, tout ça. Ça a commencé depuis le 15, hein, ça va jusqu'au 28. Alors, elle dit, en ce moment de défi planétaire et d'incertitude, il s'agit bien et quoi, quand on parle de ça, c'est Corona et Black Lives Matter. Parce que tout a, voilà, c'est tout un ensemble de choses hein, qu'on vit comme ça actuellement. Donc plus que jamais, nous avons besoin de resserrer les liens et de réaffirmer notre bonheur et la joie de vivre ensemble malgré la distanciation physique. Voilà, moi je dirais pas sociale parce qu'elle existait déjà avant la pandémie. Les gens avaient le visage dans leur écran comme le cycliste sur son guidon. Oui, c'est vrai, ça existait déjà la distanciation sociale, les gens ne se parlaient plus. Au resto, quelquefois, ça m'attristait de voir quatre personnes assises à la même table qui sont venues ensemble. Hein. Chacun était préoccupé par son iPad ou bien son téléphone intelligent. Je trouvais ça triste.
Heureusement qu'il y en avait d'autres qui se parlaient parce que comme ça, ça compense un peu.
Oui, et alors, la pandémie plus le masque, là, ça empire les choses.
Oui, là,
voilà, en plus, c'est ce qui fait que je parle beaucoup plus de distanciation physique. Alors, en collaboration avec les Journées de la Paix, voici la programmation jour par jour. Du 15 au 27, exposition Carte à 6, d'un monde à l'autre, expo multidisciplinaire par Alizé Gao et Hugo Venturini à l'espace Moucha Galoucha au 533 rue Berry.
Je les ai reçus ici à Canal M.
Oui.
Oui.
Voilà.
Ils ont reçu tous les deux. C'était un vrai plaisir
de les avoir. Tu connais Guy alors,
oui.
Le propriétaire de ce centre-là. Métro Berri-UQAM, commissaire pour Montréal, Marisa Rosales Arganza et Nora Golic. Donc, c'est un voyage à travers le Rwanda, le Québec, la France.
C'est ça.
Pour découvrir un art plein d'espoir. Tout, ça parle de bonheur, ça parle d'espoir. Et pour réserver une visite guidée d'ailleurs gratuite en petit groupe, maximum 5 personnes, pas plus, parce que c'est pas une très grande galerie. Bon, les grandes galeries comme des stades de football, j'en connais pas personnellement. Voilà, un petit groupe de 5 personnes maxi. Vous écrivez à Montréal la plus heureuse en un seul mot, @gmail.com, ou bien appelez simplement Rosana au 514-806-4057. Ça, c'est si simple que ça. Pas compliqué. Voilà. Et puis le 21 de 12h à 12h30, de midi à midi et demi, en mots et en images, des jeunes messagers d'espoir témoignent via Facebook. Ça, c'est déjà passé. Et le 23, c'est quand ça? Le 23, c'est quand ça?
Après-demain. Mercredi. Après-demain.
Après-demain. Voilà, il y a quelque chose de très intéressant. Le 23. Mosaïque du bonheur. Soirée littéraire à la harpe.
Ah bah oui, c'est Annabelle qui vient jouer, Annabelle Renzo, qu'on a beaucoup reçu ici à Canalem, qui venait d'un...
Voilà.
Que j'ai reçu souvent et qui est venu jouer de la harpe ici,
en direct. À l'ancienne émission 5 à 7.
Oui.
Elle
jouait, c'était magnifique.
À Sérénité Sonore.
Oui.
Ça va se passer au 20-25 à Masson, Loft 300-301. Ne ratez pas.
Est-ce que tu connais?
Ou en ligne via Zoom.
Est-ce que tu connais? Tu y es déjà allé?
Dans ce local? Non, je ne suis pas encore passé là.
Moi, j'y suis allé. C'est magique.
Ce local?
Ah oui. Ah ouais. On est dans des...
Dans les hamacs.
Dans les hamacs.
Mais laisse-moi finir.
Ouais, non, mais c'est trop bien.
Laisse-moi finir.
Mais je te demandais si tu connaissais, parce que ça vaut le coup d'y aller. C'est magnifique.
Et alors, allez-y vivre cette expérience unique des concerts en apesanteur à Sérénité Sonore. Écoutez les voix de quatre auteurs provenant de quatre continents transportés par le son envoûtant de la harpe. Possible d'assister aussi sur place dans les deux, dans le tout confort de chaises hamac ou en web diffusion Zoom.
Petite couverture doudou, on n'a plus qu'à s'endormir au son de l'harpe.
C'est ça.
deux ou seul. Ah, c'est magnifique.
À deux dans un hamac, ça passe?
Ah oui, oui.
Ah bon, d'accord.
Pire à voir.
Et puis le 26, voilà. De 10h à 11h et de 14h à 15h, la cuisine du bonheur. Ah. Atelier gratuit de cuisine multiculturelle en Facebook Live. Oui, bien sûr, partenariat avec l'OBNL, c'est moi le chef.
Ah,
on parle de cuisine, bien sûr. Ils sont partenaires avec le festival. Donc, découvrez le bonheur de cuisiner avec vos enfants, explorer des recettes de la cuisine syrienne et autochtone. Ouais, c'est important ça. Waouh. Et le 27, de 14h à 15h30, dédicace au monde, atelier gratuit et d'écriture optimiste au parc des Gorille, sur la plateforme, bien sûr, sans live. N'oubliez pas. Ouais, et puis, si vous écrivez une dédicace au monde entier, partagez vos souhaits de bonheur avec un petit groupe bienveillant grâce à l'écriture optimiste. Tout est bonheur, optimiste, joie, gaieté. Bah, ça tourne autour de ça.
C'est ça qui nous aide à vivre.
Oui. Alors.
Et qui coupe pas le lien social.
Le lien social, bien sûr. Pour plus d'informations, le courriel, je vous le redonne. Montréal la plus heureuse. Montréal, c'est MTL, bien sûr, la plus heureuse. En un seul mot, @gmail.com. Et le 27 de 19h à 20h15, le bonheur et l'espoir en partenariat avec Wapi Kuni en Facebook Live pour découvrir ensemble cette sélection de courts-métrages liés à la thématique du bonheur et de l'espoir produit par Wapi Kuni. Voilà, un moment d'échange va suivre, bien sûr. Et puis le 28, le dernier jour du Festival du Bonheur, le dialogue intergénérationnel en ligne via Zoom, en partenariat avec le Collège International Sainte-Anne. Comment fait-on pour être heureux? Le bonheur a-t-il
grande
la même
question.
Signification à 18 ans ou à 90 ans?
Ben, de la même manière.
Oui, le bonheur, c'est le bonheur. Tout
le court. Bonheur, c'est le bonheur.
Oui,
voilà.
Cette activité cherche à mettre en communication des personnes issues de différentes générations et de différentes cultures pour discuter de la question du bonheur. Alors, profitez-en, c'est jusqu'au 28. Et surtout, ces visites guidées au Moucha Galoucha, là, au 533 Birukam, c'est le 22, c'est demain, le 23, de 15h à 16h, il faut réserver, comme je l'ai dit, il faut réserver. On ne va pas comme ça, et puis je vais voir les tableaux qui sont là, non, il faut réserver.
D'accord.
Voilà. Alors, on fait une petite pause musicale, bien sûr, avec une personne qui est bien connue sur les ondes de Canal M, Martha Wainwright, dans le silence. Silence. Alors, je vais dire que si j'ai le temps me le permet, peut-être que je vais assister à des événements du Festival du Bonheur, bien sûr. Pour aller chercher un peu, augmenter un peu ma dose de bonheur, pourquoi pas. La sérénité, c'est-à-dire que la petite paix intérieure, quoi,
oui,
permet de faire le voyage touristique intérieur pour agrandir son petit grain de bonheur. Voilà. Festival international du film Black de Montréal, FIFBM, 16e édition, ça va vite. Hein.
16e édition déjà.
16e oui. édition déjà, mmh. Oui. C'est du 23 septembre au 14 octobre prochain. Se tiendra en ligne cette fois-ci. Pandémie oblige, on n'a pas le choix. Ou bien les organisateurs n'ont pas le choix. Ça me fait penser au festival Nuit de la Vue d'Afrique,
oui,
qui a été le premier événement durant le début, au début de la pandémie de la. Du confinement qui a fait le festival de Vue d'Afrique en ligne, d'ailleurs. Oui. C'est comme ça que les autres événements ont suivi aussi en ligne. Ça a été un grand défi pour eux, pour l'organisateur de Vue d'Afrique. C'est la même chose aussi, ça va être un grand défi pour eux. Je pense bien qu'ils ont tout mis en œuvre pour que tout se passe très bien. 16e édition, Festival international du film Black de Montréal, avec la projection de 120 films. C'est un record.
120 films.
Issus de 30 pays. 30 différents pays. Voilà, et ça va se passer en ligne, uniquement, pas dans les salles où on va s'asseoir et puis on regarde les films, là, ouais. Du 23 septembre au 4 octobre, voilà. Ne ratez pas cette opportunité, 23, c'est bientôt, là, dans deux jours.
Aujourd'hui, on va acheter nos billets
En ligne, comme, oui, Event, vous allez sur le site là-bas du festival, et puis bon, comment l'achat des billets vont se faire, tout est marqué là, toutes les informations sont sur le site, bien sûr.
D'accord.
Voilà, et puis je reviens en dans Sur le fil, c'est-à-dire le Festival international de littérature. Alors, on le sait tous, hein, ça a commencé depuis le 18 septembre, ça va jusqu'au 27, c'est-à-dire jusqu'à la fin
de la semaine.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore pu faire le déplacement, de peur de se faire contaminer ou bien quelque chose comme ça, ça ne se passe pas seulement en salle. Il y a trois festivals, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire, il y a le festival en salle, il y a le festival en ligne et le festival à l'extérieur. C'est moi, ça n'engage que moi ce que j'ai dit, trois festivals littéraires, c'est le même, mais divisé en trois catégories. En salle, en ligne et à l'extérieur. Pour ceux qui disent, bon, ouais, j'ai pas envie d'aller en salle, m'asseoir avec d'autres personnes pour écouter de la littérature, vous pouvez faire ça, vous pouvez réserver vos places en ligne, bien sûr, ou bien simplement aller voir les spectacles, les événements qui ont lieu à l'extérieur. C'est encore plus sécurisant pour ceux qui sont très, 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 très précautionneux. Je parle pas de parano, là, je veux pas mettre les gens dans une catégorie, voilà, des gens qui sont très précautionneux. Peut-être que j'en fais partie, je ne sais pas. Voilà.
Mais c'est l'automne, donc il ne faut pas qu'il pleuve et il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus.
Pour l'instant, mais depuis la semaine passée, on a été bien gâtés quand même, il n'y a pas eu de pluie.
C'est vrai.
Voilà, les soirées sont un peu plus fraîches quand même. Alors, ne ratez pas cette opportunité. C'est le 26e Festival international de la littérature qui a commencé depuis le 18 ans jusqu'au 27, jusqu'en fin de semaine. Alors, on dit, c'était promis, rien n'empêcherait de tenir cette grande fête des mots automnales. Près de 200 écrivains et artistes de toutes les disciplines prendront part aux 65 activités qui composent cette année cette vaste programmation. Plusieurs spectacles et projections en salle, des manifestations extérieures, ainsi que des propositions numériques et des échanges en ligne, bien sûr, comme je l'ai dit. Bon, c'est les trois étapes c'est les trois catégories de festivals. En tout cas, j'ai dit trois festivals.
Oui.
Le même festival divisé en trois, voilà. Donc, ne ratez pas. Dans le contexte actuel si particulier, l'équipe du fil est très heureuse de promouvoir, trouver les festivaliers et leur réserve de nombreuses créations originales et inédites. Voilà. Au programme de cette édition, sous contrainte, bien sûr, adaptée aux mesures en place, mais bien vivante, retrouvera donc des voix libres et fulgurantes qui vont retentir en écho ou bien en solo, des correspondances pour effacer la distance, des événements liant l'écriture à la danse, à la musique, à la vidéo, au cinéma bien sûr, et puis des amitiés littéraires à découvrir et à tisser aussi. Ouais.
C'est ça.
Voilà.
Des littérature. Puis...
Voilà. Et puis des livres publiés ce printemps, à ne pas oublier. Un parcours déambulatoire et une brigade rythmée en plein air. Oui, et puis des animations et inspirations pour petits et grands, bien sûr, lecteurs, si bien plus encore. Bon, arrête, je ne sais pas, mais tu es déjà passé à ce festival ?
Non. Si, j'ai dû déjà y passer, pardon.
Mais c'est le 26e quand même, ouais.
J'y suis déjà passé, effectivement. J'ai même dû déjà recevoir quelqu'un pour la présentation de ce festival.
Oui.
Mais là, quand tu parlais musique, je me disais, on va certainement reparler ensemble la semaine prochaine. Mais il y a aussi le Festival international de Nuit d'Afrique qui va avoir lieu du 27 septembre au 31 octobre.
Aussi en ligne.
Aussi.
En salle et en ligne.
En salle surtout. Mais après, chacun ira... Il y aura à peu près 25 spectacles. 125 artistes d'origine culturelle multiple aussi.
Mais combien de personnes qui sont acceptées dans ces différents spectacles en salle?
Je ne sais pas. Peut-être pas beaucoup, mais ça va passer plusieurs fois. En tout cas, on va commencer dimanche 27 septembre avec un chanteur que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a déjà longtemps à ses débuts, puis qu'on entend ici, que Maurice nous fait passer assez souvent, c'est Wesley.
Le grand Wesley. Moi, je l'appelle le Wesley National. Notre Wesley National.
Voilà.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce garçon.
Qui va commencer au Balatou, donc ça va être aussi Balatou, un bon moment.
C'est pas si grand que ça. Peut-être qu'on peut réserver des places aussi en ligne. C'est possible. On voit la programmation.
On va voir ce qui va se passer d'ici le 27, d'ici la fin de la semaine.
Ouais.
On va voir comment ça va se passer. On va voir si on vient plusieurs fois ou si Je sais pas.
Notre Wesley National.
Voilà.
Ah ouais, non, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Je sais pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Et j'aimerais bien qu'on l'ait ici à Regards Croisés.
Ah oui, ça serait bien. Je l'avais reçu à ses débuts. Il y a longtemps.
Moi aussi, ça fait très longtemps, très longtemps. Et puis tout d'un coup, il a grandi.
Ça musical, bien marché pour lui.
Musicalement parlant. Voilà. Donc, ne ratez pas ces beaux festivals-là. Et le Festival National de Littérature, bien sûr, aussi, qui tient à remercier les écrivains et les artistes qui vont prendre part à ce 26e Festival International de la Littérature.
Voilà. Et puis, en ce qui concerne la musique, on aura l'occasion de vous en reparler parce que ça va être lancé dans 6 jours. Donc, la semaine prochaine, donc on vous racontera ça la semaine prochaine.
Oui, pour les Nuits d'Afrique, bien sûr.
Voilà.
On va terminer en beauté, en musique, avec Charlie Puth. Oui.
Qui chante.
The Way I Am.
Oui.
Yeah. Maybe I'ma get a little anxious. Maybe I'ma get a little shy. Cause everybody's trying to be famous. And I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold on somebody. But no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this. I don't even think I'm gonna try. Get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. Cause all I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure.
Baby, that's okay.
Baby, no, that's okay.
Trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide.
I'ma tell them all, I'ma tell them all that you can either hate me or love me, but that's just the way I am.
I'ma tell them all, I'ma tell them all that you can either hate me or love me, but that's just the way I am.
Maybe I'm a little anxious, maybe I'm a little scared, cause everybody's trying to be famous.
I try to be famous, I stay the way I am. Voilà, tout le monde cherche à être, comment on peut traduire famous en français, ouais. Oui, avoir de la gloire et autres, mais moi je
être
reste...
Être reconnu.
Voilà, être reconnu, voilà, je reste comme je suis, the way, voilà, la manière dont j'aimerais être. C'est ce qu'il chante là dans cette chanson.
D'accord.
Charlie Puth, je l'aime bien. Le beat est là aussi. Alors, avant de dire au revoir à nos invités, à nos auditeurs, pardon, et à notre invité, dis merci à notre invité Denis Martin, dans le cadre du fil du Festival National de Littérature, le samedi 27, le 26, pardon, dès 9h30, Les Mots Parleurs, édition virtuelle Plaisir Réel, un joyeux relais d'écriture orchestré par Simon Boulris est offert en ligne aux jeunes de partout. Intéressant. Hein, voilà, des ateliers d'écriture ludique et surprenant pour les jeunes de 6 à 12 ans avec les auteurs Joséphine Bacon, Laure Morali, Julie-Anne Rangé-Beauregard et Simon Bolris. Une activité créative avec Patsy Van Boot. La lecture des textes écrits par les enfants, par les comédiens Eve Landry, Sébastien René, sur une musique de Benoît Archambault, samedi 26, 20h, dès 9h30. C'est gratuit pour toutes les familles. J'ai pourquoi dit 20h. Bon, parce qu'ils ont mis 2020 à côté. 9h30, ne ratez
non,
pas.
Quand les enfants sont encore debout.
Voilà.
Eh bien, je veux rappeler aussi que le livre de Denis Martin Chabot, Laurent McCutcheon et la révolution gay et lesbienne du Québec, se trouve aux éditions de l'Homme. Donc, merci à tous et à demain. Merci d'avoir été là. Merci, Maurice.
Merci à vous. Merci à notre invité.
Je viens de le dire à l'instant.
Denis Martin.
Urgence.
Voilà, merci.
Donc,
merci. Merci, Maurice. Merci à. Et n'oubliez pas hein, le Festival du Bonheur, Arlette.
Oui, aussi.
Oui. Et puis.
Merci à tous, à demain.
On se voit demain.
Entendu.
Ouais.